Alors, quand j'ai commencé à travailler ce thème pour aujourd'hui, j'ai ressorti des vieux commentaires des années 80. Et j'en ai malheureusement découvert encore toute l'actualité. Et puis, un vieux sentiment personnel est remonté à la surface, un vieux sentiment d'injustice. Parce qu'en étant, en ayant été une petite fille et en étant une femme, eh bien, petite, je me suis rendu compte assez vite que le statut des filles et des garçons n'était pas le même. Et quand j'ai... Et du coup, je l'ai intégré. Et je l'ai tellement bien intégré que quand j'avais 25 ans, je disais, si j'avais été un homme, j'aurais été pasteur. Il a fallu que j'attende 40 ans pour devenir pasteur. Et pourtant, nous avons été élevés, mes frères et moi, dans le même respect des uns des autres, mais la culture patriarcale imprégnait et imprègne encore tellement notre société que la soumission de la femme était normale pour tout le monde et aussi pour les femmes qui ont intégré, donc, c'est-à-dire qu'on se met à soi-même des barrières, inconsciemment. Et en fait, le féminisme n'était pas bien vu et on appelait féminisme quelque chose de faux, parce que je m'en suis rendu compte finalement au bout d'un moment. Dès qu'on veut mettre le projecteur sur les injustices subies par des femmes, eh ben, on appelle ça du féminisme et on est critiqué, on est accusé d'être féministe, et aujourd'hui encore. Et malheureusement, le masculinisme est un... Enfin bon, vous le savez, c'est terrible. C'est un retour de balancier. Ma mère a fait partie des groupes de l'église réformée qui s'appelait groupe Jeunes Femmes, qui s'appellent aujourd'hui, qui ont été renommées aujourd'hui, les femmes n'étaient plus très jeunes, par les groupes Orsay. Elles existent encore, ces groupes existent encore, et ces groupes réfléchissaient en avant-garde des évolutions nécessaires. Par exemple, ma mère devait commander sa contraception en Angleterre, parce que ce pays était plus en avance que le nôtre. Contraception interdite en France jusqu'en 1967. Et la légalisation de la pilule, donc, à cette année-là, a valu aux députés, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent du nom du député, Lucien Neuwirth, eh bien on l'a traité de fossoyeur de la France. Et on ne parlait même pas de l'avortement. Ces groupes jeunes femmes invitaient des personnalités pour s'informer et faire avancer les mentalités. Ça ne fait même pas 60 ans. Et pendant des milliers d'années, la vie de la femme était rythmée par les grossesses. C'était pratique et facile pour les hommes de maintenir les femmes dans leur soumission de cette façon-là. Et l'Église a suivi évidemment ces mentalités, et ce n'a été que dans les années 60 que notre Église a ouvert le ministère féminin. Donc, les femmes ont pu devenir pasteurs. Et pourtant, dans la Bible, tout était déjà là pour voir la femme autrement. Mais évidemment, cette puissance du patriarcat, eh bien, s'est exercée dans l'Église, qui l'a en fait appuyée. L'Église a justifié la soumission de la femme par certains textes mis en avant, et aussi dans des choix de traduction. Il y a un livre qui est sorti l'an dernier qui s'appelle « La Bible est-elle sexiste ?» écrit par la pasteure et théologienne de l'Église baptiste Valérie Duval-Pujol. Et elle met en avant les déformations de notre regard. Et elle commence par quelque chose d'intéressant. Dans son livre, au tout début, elle met une reproduction du tableau de Michel-Ange, vous savez, qui est à la chapelle Sixtine, où on voit la main de Dieu et Adam, donc il y a la création d'Adam. Donc ça s'appelle la création d'Adam. Et dans ce tableau, en fait, on ne voit jamais, et je ne l'avais pas vu moi non plus, que dans ce tableau, vous avez Dieu et vous avez Adam, et Dieu, de sa main, de son bras gauche, il entoure Ève. Donc Ève est tout à fait présente au même titre qu'Adam. Mais on ne le remarque pas. La femme a été invisibilisée. Et malheureusement, on sait qu'elle l'est toujours, notamment dans certains pays, et je pense aux femmes afghanes. c'est important de s'en souvenir. Il y a des femmes, aujourd'hui, des petites filles qui n'ont pas le droit d'étudier. Et aujourd'hui, malheureusement, ça existe encore en France. Combien de fois est-ce que, quand je m'hasarde à poser une question à un homme, une question parfois un peu technique, si jamais mon mari est à côté de moi, eh bien l'homme va répondre à mon mari, pas à moi. Et puis il y aurait tellement d'autres exemples. Parfois, certains hommes ont cette conscience qu'il faut rétablir l'équilibre. Il y a une quarantaine d'années, un proviseur de lycée a dit à ma cousine, quand elle voulait devenir infirmière, il lui a dit non, tu seras médecin. Il lui a donné confiance en elle. Il a élevé son regard au-dessus. Et la théologienne montre que la Bible porte le message de la bonne nouvelle pour les femmes et pour les hommes, bien sûr. Mais que bien des traductions sont faites pour justifier la hiérarchie entre les deux. Alors évidemment, il y a bien sûr ce mot « homme » en français que l'on choisit pour traduire « humain », alors que dans d'autres langues, en allemand, il y a « Mensch » pour dire « humain » et « Mann » pour dire « homme », il y a deux mots différents. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le mot « humain » ? Et quand j'ai travaillé sur le texte de la Genèse en faculté de théologie, j'ai mis en avant cette réalité biblique dans les mots choisis, ce n'est pas un homme qui est créé en Genèse 2, c'est un humain. C'est l'Adam qui est tiré de l'Adama. Et c'est seulement quand Dieu lui amène la femme qu'il a tiré, non pas d'une côte qui n'existe pas en hébreu, mais du côté. Donc il prend un côté pour faire un autre côté. Il fait la femme et c'est en voyant arriver la femme que l'homme devient un homme masculin. Oui, dans le premier chapitre, l'être humain est créé dans les deux sexes, mâle et femelle à égalité en vis-à-vis. Et puis, nous avons entendu ce passage du livre des Rois, qui parle de la prophétesse Hulda. Est-ce que vous connaissiez cette prophétesse ? Eh bien, moi non plus, je ne la connaissais pas. C'est quand même fou. Elle arrive à un moment fondamental dans l'histoire du peuple d'Israël où le livre de la loi est redécouvert. Et donc elle va être l'intermédiaire entre Dieu et le roi Josias. Elle a reçu l'Esprit de Dieu, elle est reconnue comme une vraie prophétesse pour porter la parole divine. Elle sera écoutée et le roi va obéir à ses commandements. Alors regardons maintenant comment Jésus fait exister les femmes. Malgré ce patriarcat, et en relisant encore et toujours ces textes, je me dis, ce qui est extraordinaire aussi, c'est les auteurs des évangiles qui ont écrit ces histoires. Je me suis dit, finalement, ils auraient pu censurer les histoires qui se passent dans les rencontres de Jésus et de la femme. Mais non, ces récits existent. Et du coup, Jésus montre leur importance par sa manière d'être avec elles. Il les rencontre, il ose leur parler alors que parfois c'est interdit, il les guérit, il leur pardonne et il se fait accompagner par elles. Il les sort de leur invisibilité. L'auteur de l'évangile de Luc a entendu ce message révolutionnaire pour l'époque. Il mentionne les femmes qui suivent Jésus au même titre que les 12 disciples. Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, on en a fait une prostituée, bien sûr, c'est pratique. Mais rien ne dit que Marie-Madeleine était une prostituée. On dit juste qu'elle avait des esprits mauvais, des démons, et qu'elle a été guérie. Les démons, c'est un synonyme d'être très malade. Elle était très malade et elle a été guérie par Jésus. Et puis, il y en a une autre, Jeanne. Elle est la femme de Chouza, qui est l'intendant d'Hérode. Donc, elle est quand même assez bien placée. On peut imaginer qu'elle a peut-être plaidé la cause de Jésus. D'autres femmes suivent, apparemment assez riches, parce qu'elles aident Jésus et les disciples de leur bien. Des femmes mécènes de Jésus, est-ce qu'on le dit ça ? Eh non. Et puis, ce texte qu'on connaît très très bien, le texte de Marthe et Marie, et j'ai choisi ce texte parce qu'il met en scène deux femmes. Et c'est ça qui est intéressant. Marthe a le rôle traditionnel de s'affairer à la cuisine. Et Marie est décrite comme le disciple assis au pied du maître. Alors, il n'y a pas de féminin disciple, hein. Je pourrais dire la disciple, C'est comme témoin, il n'y a pas de féminin. La témoin. On est obligé d'inventer des mots pour s'y reconnaître, nous, les femmes. En tout cas, Marie, comme disciple, ça n'existe pas. C'est une nouveauté radicale qui va complètement à l'encontre de ce qui était admis. Et la pasteur France Bédon, que tout le monde connaît bien sûr, a écrit en 1989 dans la revue Foi et Vie. Dans l'Église primitive, la question du rôle des femmes était débattue et des résistances se faisaient sentir. Ce qui est contesté, c'est l'accès des femmes au ministère de la parole. Et cette pasteur souligne l'originalité d'avoir mis deux femmes dans le récit. Je la cite. « Ceux qui contestent ce statut aux femmes sont des hommes. » Mais elle continue en disant « Le conflit de rôle divise non seulement les hommes d'avec les femmes, mais encore les femmes entre elles. » Pour pouvoir lutter contre l'oppression dont on est victime, il faut d'abord que la victime en ait pris conscience. Je ferme la citation. Et cela nous fait penser qu'il y a malheureusement des situations où les femmes transmettent elles-mêmes une oppression séculaire. Elles ont tellement intégré cette normalité. Et je pense à cet exemple terrible, cette volonté de stopper l'excision des filles, et malheureusement, elle se heurte à la résistance des mères et des grands-mères de la famille. Alors Marthe veut imposer à sa sœur sa manière de voir, sa manière de faire les choses, sans entendre qu'il peut y avoir une autre voie possible, un autre rôle possible. Jésus lui ouvre à tous et toutes la possibilité de le suivre et d'écouter la parole. La part de Marie ne lui sera pas enlevée. Et puis, Jésus va choisir en Marie-Madeleine la première disciple, la première qu'il a vue ressusciter, la première qui va proclamer la bonne nouvelle, Jésus est vivant. Mais il va falloir encore attendre des millénaires jusqu'à aujourd'hui, et encore pas dans toutes les églises, pour que les femmes accèdent enfin à ce rôle de la proclamation de la bonne nouvelle. Alors, pour finir, qu'en est-il de l'apôtre Paul ? Il est très, très détesté par beaucoup de femmes. Et pourtant, c'est vrai que l'interprétation de ses lettres a justifié l'impossibilité pour des femmes d'être à la tête d'une communauté ou bien de prêcher. Une interprétation qu'on a évidemment entretenue dans un patriarcat qui ne voulait pas partager le pouvoir de la parole. Et pourtant, si l'on regarde avec un peu d'attention, ce n'est pas ce que Paul a vécu. Il cite beaucoup de personnes avec qui il a travaillé. Dans le livre « La Bible est-elle sexiste ?», la théologienne mentionne et elle dit « Dans son entourage, donc de Paul, les femmes représentent un quart des personnes citées comme collaborateurs. » Et en fait, elle montre, Valérie Duval-Pujol, que souvent il y a des mots qui sont traduits comme collaborateurs, comme disciples, comme ministres, et qui ne sont pas traduits comme ça en français. On les ramène à des femmes qui sont au service. Mais il y a des femmes, par exemple, qui tiennent des églises de maison. Elles étaient à la tête de ces petites communautés. Au début de l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, l'apôtre parle des gens de Chloé. Et oui, ces gens de Chloé lui rapportent des discordes. L'expression dit même « sous Chloé ». Et Paul ne présente pas cette chrétienne, sous-entendu, tout le monde la connaît. Oui, elle est responsable de cette communauté de maison. Et même, Valérie Duval-Pujol souligne que des prénoms considérés comme masculins sont en fait des collaboratrices. Et Phébé ou Persis ne sont, dans la manière dont Paul les présente, ne sont pas présentées comme femmes d'eux. Dans le livre des rois, on a quand même entendu que la prophétesse Oudla, elle était femme de quelqu'un, etc. Là, même pas. Parce qu'on était toujours femme de son mari. On n'existait pas sinon. Alors évidemment, le temps me manque. Pour dire que toute la théologie de Paul se situe dans un déjà-là et un pas encore. Le déjà-là lui fait dire, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Et le pas encore, eh bien, le fait vivre dans la mentalité de son temps, avec des restrictions, par exemple, pour les femmes. Jésus donne une visibilité aux femmes. Il ne les réduit pas au rôle de mère, mais il les regarde, il les écoute, et il entre même en discussion théologique, comme avec la Samaritaine. Alors oui, c'est notre rôle de chrétien et de chrétienne, parce que Jésus va instaurer le baptême pour les hommes et les femmes. Ça va être différent de la circoncision qui n'est que pour les hommes. Nous avons un sacrement pour les deux. Alors oui, c'est notre rôle que de lutter pour que l'équilibre puisse progresser. Si jamais vous êtes un homme et que vous avez un salaire, vérifiez qu'une femme qui travaille dans le même métier que vous ait le même salaire que vous. C'est encore une injustice en France. On a ça dans le monde du travail et puis on a des inégalités dans plein de mondes différents, la politique, les loisirs, la famille et l'Église. Oui, convertissons-nous et mettons-nous à la suite de Jésus-Christ. Amen.